Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie pour faire fructifier votre patrimoine tout en bénéficiant du rendement exceptionnel du marché financier, vous propose l'émission Club de la Presse. GTA Assurance Vie, en toute confiance. L'émission Club de la Presse vous a été proposée par Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie. GTA Assurance Vie, en toute confiance.
Canal FM.
Nous sommes le jeudi 6 juillet 2023, il sont 11h et nous vous saluons, vous les chers et fidèles auditrices et auditeurs du Club La Presse, cette aventure commune que nous menons ici au studio de Canal FM, mais que vous suivez avec nous un peu partout au Togo sur les ondes de Radio Lumière, Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapon. Pour dire que nous sommes suivis, écoutés un peu partout au Togo, et ce n'est pas fini, dans le monde entier, par le biais des confrères numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, sans oublier les applications numériques. Vous nous regardez même sur la chaîne YouTube. Ceci, c'est grâce aux techniciens Vitogbe Kokou, Michel Tomenga et Jérôme Kodjo Akucha. Aujourd'hui, nous allons débattre de sujets assez divers. Une introduction qui va porter sur la salubrité, l'hygiène, la santé publique. Et puis, nous allons nous transporter dans les locaux du ministère de l'Administration territoriale qui accueille cette session spéciale du cadre permanent de concertation entre acteurs politiques. Nous ferons une sortie à Dakar auprès de Macky Sall, le président de ce pays. Puis nous reviendrons ici à l'université pour voir qu'est-ce qui se passe au juste au sein du monde universitaire. Tout choix est arbitraire. J'avoue que sur la douzaine des journaux qui sont arrivés, il y a tellement de sujets, mais souffrez que le Club La Presse n'en sélectionne que 4 aujourd'hui. Avant les commentaires, cette pensée du jour qui va nous inspirer, quand le sage nous dit que la seule vraie religion, c'est d'avoir un bon cœur et éviter de faire du mal aux autres. Encore une fois, la seule vraie religion, c'est d'avoir un bon cœur et éviter de faire du mal aux autres. Je sais que les 3 confrères déjà arrivés et le 4e en route, vous êtes tous animés d'un bon cœur, n'est-ce pas Ambroise Yaokonjo?
Oui, Sas Gaou, bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Ça fait un long moment. Et surtout les auditeurs et auditrices qui nous suivent. J'aimerais dédier cette émission à ma grande sœur, Claudine. Bonjour à Yanyo, qui est décédée.
Mais tu as oublié le prénom qui fait toute sa vie, Lomaou.
Lomaou, voilà. Claudine Ayawavi Lomaou. Monjo Ahiagno, qui est ma grande sœur, beaucoup ne savaient même pas que c'était ma grande sœur, que ce soit ma tante. C'est ma grande sœur, elle est la 3e dans le rang. Elle vient, il y a une autre qui vient, mon grand frère vient, je viens. Donc,
la généalogie de Mebo à Michintove, voilà. C'est assez riche.
Oui, oui. Mm-hmm. Et donc, elle est subitement décédée comme ça, un 19 juin. C'est affligeant, mais bon, on rend grâce à Dieu pour tout.
C'est la vie, Claudine s'en est allée.
Comme c'est de mon habitude, c'est la tradition, soulever la route de Ségbé. Si le gouvernement qui nous a aidé à avoir cette route, que nous félicitons d'ailleurs, peut l'élargir un peu, 1 mètre de chaque côté, je crois que ça fera moins d'accidents sur cette route.
Merci, c'est un plaidoyer. Michel Sarakoabalo Tchadja, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour Ambroise et à Magloire, bonjour à nos amis derrière la belle vitrée, bonjour Canal FM. Mais si tu permets Sass, vous parlez des infrastructures, je voulais parler de la route, en tout cas pas la route, le début de la route qui mène de l'Ebacito jusqu'à Chetebo.
Oui. Chez Ambroise d'abord,
avant d'être chez Ambroise. Chez Ambroise connaît bien la route.
Oui.
quand vous arrivez au feu rouge de l'Ebacito.
Oui.
Mais ça fait des mois qu'il y a un trou béant qui fait qui retarde les véhicules, que ce soit les véhicules qui descendent en ville vers Lomé ou bien ceux qui vont à Michintové. C'est, je le dis parce que je me suis mis à côté un jour, deux jours, pendant une heure du temps pour observer ce qui se passe. Il y a des gens tout puissants qui viennent de Michintové, qui arrivent là-bas, qui en souffrent. Mais jusqu'à présent, je dis c'est une petite portion, mais un grand trou qui empêche les véhicules d'avoir. Et personne n'en parle depuis près de deux mois. Même ça dépasse. Mais on se demande, est-ce que nous avons des élus, que ce soit des députés ou bien des maires? On se pose beaucoup de questions. Il ne faut pas que ça reste deux jours pour les élections et on va aller remplir le trou là-bas. Avant les élections, les populations ont droit d'avoir des infrastructures en bonne et due forme. Parce que c'est l'habitude qu'on a dans ce pays. À deux jours des élections, on va encore mal pour dire que non, moi ça me fait mal.
Merci
parce
Michel.
Que ce n'est pas normal.
Que constater, ça s'adresse d'abord au maire de la localité. Pourquoi pas à tous aux élus, à toutes les personnes qui comptent dans le secteur, mais aussi et surtout au gouvernement, aider la commune là-bas à arranger cette portion de la route. Magloire Teko Kenvi, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour Michel, bonjour Ambroise, ravi de le retrouver encore une fois dans la grande maison. Bonjour à tous.
La grande maison du club de la presse.
Bien entendu.
Puisqu'il y a beaucoup de grandes maisons au Togo à ce qu'il paraît.
En tout cas, je parle du club de la presse.
Ok, merci pour la précision.
Alors, bien entendu, bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Canal FM, spécialement à tous ceux qui soufflent aujourd'hui une bougie de plus. Vous savez, c'est une grâce. Et parmi eux, il y a un ami, un frère, un journaliste de formation, ou du moins qui a été dans la corporation. Il s'appelle Dedji Kokou Dieudonné. Roosevelt, aujourd'hui, il est délégué du personnel à l'Office togolais des recettes. Joyeux anniversaire à lui et grâce et plénitude.
Merci. Nous attendons un quatrième confrère qui va nous rejoindre nécessairement. Ambroise nous rappelait tantôt la subite disparition de notre ami et de notre sœur à nous tous, Yawavi Lomau Claudine Kondjo Ahiagno. Eh bien, le programme de ses obsèques est publié dans le journal The Guardian. La veillée de prière de chant, ce sera le vendredi 21 juillet. La chapelle ardente, le culte d'enterrement, l'inhumation, le samedi 22 juillet. Mais déjà, dès demain déjà, ce sera la veillée de prière et de chant pour notre confrère et ami Jacob Ahama. Toutes les cérémonies se dérouleront dans son village à côté de Agbelouvé. Dans le Zio. Merci pour toutes les bonnes volontés qui prient pour le repos aussi bien de l'âme de Claudine que de Jacob Ahama. Sujet numéro 1, civisme, hygiène et santé publique. Quand vous circulez à Lomé, il est courant de voir ici et là des gens qui lavent leurs motos ou carrément leurs habits dans les bassins d'orage et autres retenues d'eau dans la ville de Lomé. Certaines personnes s'adonnent même à des baignades dans ces eaux. Notamment dans les deux plans d'eau au sud de l'université de Lomé, les gens ont érigé ces deux plans d'eau en piscine. Ils se baignent allègrement, exhibant toutes les parties de leur corps au grand public. Et d'autres encore pratiquent la pêche dans les lagunes du 4e lac, ou bien dans les lagunes de Baie, de Hanoukopé ou de Boka. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces eaux sont sales, impropres et inappropriées aux activités susmentionnées. Ce faisant, on risque d'attraper des germes de maladies sans aucun doute. Mais qu'en est-il de la propriété dans nos quartiers? Nous sommes tombés sur cet article du journal La Nouvelle Tribune qui nous parle de la commune Golfe 5, reprise de la pré-collecte des ordures dans les ménages. Ça aussi, c'est un chapitre à rappeler à toutes les communes, les pré-collectes depuis les domiciles jusqu'à la décharge. Et puis, The Guardian qui rebondit, lui aussi qui écrit « Ordures sur la voie publique et création de dépotoirs sauvages ». Pour The Guardian, il faut tout simplement des sanctions sévères contre les têtus qui continuent à salir nos routes et nos rues. Et puis sur la santé, il y a cet article de Flambeau à la page 3 intitulé « Santé, des cas isolés de mortalité de volailles et de porcins ». C'est un communiqué conjoint des ministères de l'Agriculture et de la Santé qui mentionne des cas isolés de mortalité de volailles et de porcins enregistrés dans certains élevages à travers tout le pays. Et les deux ministres rappellent que la période du mois de juin et suivant, de juin à octobre, se révèle propice à l'apparition de la grippe aviaire et de la peste porcine africaine. D'où les ministères qui nous invitent à la vigilance, à des mesures appropriées. Chacun en a pour son compte. Il y a donc l'élevage, il y a ceux qui se baignent ou lavent leurs habits, leurs motos dans les eaux sales, et ceux qui pêchent également dans ces eaux. Le dernier arrivé est l'homme conseiller à Tichogwe, bonjour.
Bonjour confrère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et toutes mes excuses pour le retard.
Indépendant de ta volonté.
Et naturellement. Et puis, je me réjouis de voir sur ce plateau mon confrère Ambroise Pondjo qui nous a beaucoup manqué. Mm-hmm. Bon retour à lui.
Tu connais l'autre nom de Dieu ?
C'est le temps.
C'est le temps. Maintenant, une minute pour réagir sur l'un ou l'autre sujet. Non, Elon ?
Bon, en réalité, je vous suivais quand j'arrivais, justement. Et je crois quand même qu'aujourd'hui, les journaux sont aussi riches, les uns que les autres. Est-ce que je dois me prononcer clairement sur un sujet?
Non, sur les sujets, l'incivisme, l'hygiène publique, la santé publique, avec les événements que j'ai évoqués, la revue de presse.
Oui, oui. Non, je crois que par rapport à l'incivisme, on fait des gens un travail noble en tant que journaliste sur le sujet. Mais sauf que on constate toujours que sur les trottoirs, dans la rue, dans la société, il y a beaucoup de cas d'incivisme qui se manifestent toujours. Et quand nous prenons par exemple les accidents de la route, les gens continuent par faire du désordre. Et il y a certains qui sont disciplinés. Et ce qu'on va faire, c'est de continuer toujours à faire notre travail, nous en tant que journalistes, à sensibiliser les gens sur le civisme et la citoyenneté. C'est très important. Donc, je crois que je vais me prononcer typiquement sur ce sujet-là.
Et l'instant. Pendant que nous sensibilisons, Ambroise, comme tu le dis, et après que nous sensibilisons, il faut quand même sanctionner ce que tu appelles les têtus.
Oui, il y a effectivement des têtus dans la République. Et ces têtus-là se retrouvent partout, dans tous les secteurs d'abord. Et l'homme a soulevé le cas surtout des motocyclistes, des conducteurs de motos, particulièrement les émigrants. Il y en a qui rentrent dans tout et partout, sans contrôle. C'est parce qu'il a fait l'expérience sur les voies qu'il a dit. Moi, je me garde de dire tout. Mm-hmm. Mais je reviens sur le cas des sanctions liées à ceux-là qui versent leurs ordures et déchets sur la voie publique, dans l'eau stagnante. La seule voie dans un quartier que les gens empruntent pour rejoindre le goudron, des ménages qui ont refusé de s'abonner au pré-collecte des ordures se permettent de jeter ça, surtout les maisons de location, sur la voie publique. La dernière fois, j'ai été désarçonné, décontenancé de voir la seule voie dans une zone, chez nous là-bas à Ségbé, où les gens empruntent, les maisons de voisinage sont venues verser leurs poubelles, leurs défritus dans l'eau là-bas. Et quand tu vois ça, c'est immonde et c'est mal à voir.
Et c'est devant leur propre
porte. C'est à côté. Et le monsieur qui est à côté, qui a une belle maison, leur a plusieurs fois dit ça. Mais ils n'ont jamais obtempéré. Donc les maires ont un travail, un devoir de sillonner, surtout les maires à jeun et leur service technique, de sillonner les quartiers de leur ressort territorial pour pouvoir dénicher, débusquer les voyous là. Je les appelle voyous et indélicats pour les sanctionner.
Ça, c'est vraiment Ambroise qui est de retour.
Eh bien,
nos polices, non, disons, nos communes ont besoin vraiment d'une sorte de police municipale pour investiguer sur ces éléments-là et rendre compte à qui de droit. Magloire, Flambeau s'intéresse donc à cette alerte que lancent les ministères de l'Agriculture et de la Santé publique.
Oui, je crois quand même que c'est important de revenir sur cette information parce que vous savez que, surtout au sud du Togo, nous sommes dans la période des grandes pluies, la grande saison pluvieuse, et cette saison-là, elle se révèle beaucoup plus propice, n'est-ce pas, à la grippe aviaire et surtout à la peste porcine, comme le gouvernement l'a relevé. Et surtout, ce qui est important de relever également, c'est que ce soit le ministère de la Santé ou le ministère de l'Agriculture, il relève que des cas de décès, justement, des volailles ont été constatés à travers le pays. Et donc, invitation a été faite, justement, aux éleveurs de faire très attention, surtout en ces moments précis, pour ne pas laisser infecter tout leur parking, en tout cas pour ce qui est de leur volaille. Mm-hmm. Maintenant, je crois que, je le disais, c'est important de le relever parce que, vous savez, souvent, quand les volailles tombent comme ça, on pense que c'est de la bonne viande qui est là, alors que derrière, très souvent, ce ne sont pas des cas, on va dire, normaux. Et donc, c'est une occasion pour nous, hein, de demander à tous nos concitoyens si vos poules, vos coqs tombent ces temps-ci, que ce soit les porcs, tout ça, il faut savoir que ce n'est vraiment pas propice de les manger comme cela.
Merci, le gouvernement qui nous rappelle au respect des normes de biosécurité, c'est une question individuelle et collective. Michel, pour ramasser tout ça là, l'incivisme, le manque d'hygiène et puis notre santé publique, avec tout ce que nous avons évoqué.
Oui, je vois des gens pêcher dans ces eaux-là. Je ne sais pas, ces poissons-là, c'est pour leur consommation propre ou bien...
De toute façon, quelqu'un mange ces poissons.
Ces poissons. Mais je me dis que c'est des eaux sûres et que si on pêche dans ces eaux-là, les produits qu'on en prend là-bas, ça peut être des mauvais produits à la consommation.
Oui.
Oui. Et puis, nos amis émigrants, comme vous le dites si bien, si vous allez vers la retenue d'eau de Lyon ou c'est pas au niveau de la gare routière d'Aguadodo, vous allez les voir avec leur moto, ils sont en train de laver leur moto. Quand je parle, je dis mais est-ce qu'ils n'ont pas peur de ces eaux-là, ce que ça peut...
Non, certains même ils lavent leurs habits.
C'est vraiment ça fait, quand je les vois ça fait un peu ça fait un peu peur, parce que d'abord ces eaux là si quelqu'un glisse là bas parce qu'il y a de la boue dedans, et puis de deux, la nature même de ces eaux là comment ils peuvent vraiment se permettre de laver leur moto, laver leurs habits, tout ça là, on doit éviter ça, parce que la santé publique, et c'est une préoccupation de nous tous. Il faut que les gens soient en bonne santé. Et comme c'est des personnes adultes, nous n'allons pas leur donner des leçons, mais c'est que nous attirons leur attention, tout simplement.
Nous sensibilisons.
Voilà. Je crois qu'il faut... C'est important de pouvoir mettre en place une police municipale.
Vous comprenez ?
C'est très important. Parce que le émigrant ou le conducteur d'Aximoto qui vient laver sa moto dans une retenue d'eau, à côté d'une retenue d'eau, par exemple, met en danger toute la population. C'est-à-dire, dès qu'il finit, les microbes, les virus, tout ce qu'il peut y avoir, il les ramasse, et puis il met la main dans la poche, il donne la monnaie, et cet argent circule de poche en poche, de famille en famille, de revendeuse en revendeuse. Je crois que c'est toute la chaîne qui va être infectée. Et donc, il est important aujourd'hui de pouvoir briser cela en mettant en place une police municipale pour interdire aux gens de laver leurs voitures. Parce que les gens lavent aussi les voitures dans des histoires comme ça. Même leurs motos, même au niveau de 3K, en allant vers la présidence.
Oui, oui.
Quand il pleut là, au niveau des deux retenues d'eau là-bas, les gens se permettent de laver leurs motos allègrement
comme
ça.
C'est là même que les gens ont transporté en piscine à ciel ouvert.
Voilà, donc c'est malsain tout ça. Il faut une police municipale pour réglementer
cela.
C'est
une question de discipline et de santé. Ça vaut pour chacun individuellement et toute la société.
Elle en parlait de la police municipale. Je crois que la pollution sonore aussi fait partie de cet environnement-là qui gangrène et pourrit la vie des habitants dans les quartiers. Vous allez voir un bar qui ouvre à partir de 20 heures avec une musique à décibels insupportable à rayon de 200 mètres. C'est-à-dire que même si les enfants qui sont au bac là, ils vont souffrir avant d'apprendre. Pour eux, c'est leur monde. Mais ce n'est pas moi, mon monde. Je suis désolé.
Oui, merci.
Donc, il faut que la police,
les bars,
que la mairie fasse son travail dans les quartiers.
Le dire, les bars, mais aussi certains lieux de culte,
oui.
Hein, qui polluent. Hein,
lieu de culte, les polluent, églises, les même les mosquées qui sont là à 4 heures du matin, qui nous réveillent.
On a résumé
à lieu de culte. Ça aux motos qui, je ne sais pas comment ils règlent leur tuyau d'échappement.
Oui. Il y a des motos. Ils enlèvent les silencieux.
Voilà, les silencieux, et vraiment, ça crée du vacarme. Carrément dans les. Et c'est à partir de 22h quand les gens se reposent.
C'est
je
ça.
Je sais pas. Et ça quoi. Non, j'ai eu à dire ça à une autorité de sécurité. J'ai dit, mais non. Et c'est ceux-là, on les connaît. C'est les enfants des gens qu'on connaît. Ils le font à chaque fois. Ils vraiment empêchent les gens de dormir.
Merci. Nous sommes en République et l'ordre, la discipline devrait régner. C'est pour ça que nous avons un gouvernement. C'est pour ça que nous avons eu des députés pour faire les lois. Et pour nous rapprocher encore de nous, il y a l'administration décentralisée, les communes, que chacun fasse son travail et le Togo sera vraiment ce tort de l'humanité que nos ancêtres ont rêvé. CPC, le cadre permanent de concertation entre acteurs politiques qui a repris du boulot hier. Mais avant d'y arriver, cette revue de presse avec le confrère Libération qui rappelle que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a sifflé la fin des opérations de recensement électoral et place à présent à l'appurement du fichier électoral et prochainement à l'affichage des listes électorales. Écho du pays écrit lui aussi, politique, agitation de l'opposition à l'approche des élections. Pour Écho du pays, certains partis politiques jettent leur dévolu sur les activités déjà menées par la CENI, notamment le recensement électoral, le dialogue. Lui aussi écrit la page 4, recensement et exigence de l'opposition quand la DMP et l'ANC font enfler la polémique. Et justement, le confrère L'Intelligent écrit à la page 6, l'opposition, notamment la DMP et l'ANC, entre autres, exige la reprise du recensement dans la zone 1. Flambeau qui écrit, lui maintenant sur ZPC, que les travaux ont repris hier avec le comité d'action pour le renouveau. Mais c'est quelle branche du CAR prend part aux travaux depuis hier, Mangloire?
Ben, ce qu'on sait officiellement, c'est que c'est le CAR branche Monsieur Daté.
Très bien.
Qui est représenté au CPC.
Merci. Donc, je continue avec The Guardian qui écrit la page 3. Refus délibéré de reprendre le recensement dans la zone 1. Dago Yabré, c'est le président de la CENI. Donc, Dago Yabré viole la constitution et le code électoral selon The Guardian. Et le changement qui revient lui aussi sur la session spéciale du CPC qui a commencé hier et qui continue aujourd'hui, à l'ordre du jour, le recensement électoral. Le changement écrit que les débats ont été houleux. Les parties prenantes à la réunion n'ont pas pu accorder tout leur violon, notamment en entente sur éventuellement la relance du recensement dans la zone 1, mais les séances reprennent aujourd'hui. Qui prend le premier? Ambroise?
Oui, effectivement, le sujet-là fait l'actualité. On a parlé de l'ANC, de la DMP, mais je crois que le cas de Daté, oui, Daté est...
Disons le cas.
Le cas, voilà. Bon, le cas et autres ont rejoint la barque en réclamant expressément la reprise des recensements dans la zone 1. Nous, on a titré, comme tu l'as si bien dit, qu'il y a une violation de la Constitution à son article 11. Et je précise, cet article 11 nous stipule que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou défavorisé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique, sociale et de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres. Maintenant, l'article 44 du code électoral lui-même nous précise que l'inscription sur la liste électorale est un droit pour tout citoyen togolais remplissant les conditions requises par la loi. Tous les citoyens togolais visé à l'article 40 ci-dessus doivent solliciter leur inscription. Et donc, l'arsenal juridique est clair sur le processus électoral. Moi, je me pose la question, pourquoi M. Dago a refusé? Puisque le gouvernement lui-même, quand les problèmes de dysfonctionnement avaient été constatés dans la première zone, avant d'aller dans les deux et trois zones, la troisième zone, le gouvernement a dit de corriger le tir. Et la CENI même avait sorti un communiqué. avant que les parties dont nous avons fait cas tout à l'heure on sont rentrés dans la danse pour réclamer que l'on revienne à la zone 1. La zone 1, c'est la zone qui regroupe au moins les deux cinquièmes de l'électorat. Donc il faut que le CPC dont on parle puisse, si c'est ce cadre qui doit acter cette réinscription de la zone 1, qu'on le fasse.
Et Michel, la semaine passée, nous avons parlé de ce communiqué de l'ANC qui demandait expressément la reprise des séances du CPC. Je ne sais pas si c'est la demande de l'ANC qui a fait, mais toujours est-il que les acteurs politiques consentent à s'asseoir autour d'une table au sein du CPC, espérons peut-être la fin de la journée, qu'ils sauront harmoniser leur violon sur l'essentiel, dans le sens vraiment que nous disposions d'un fichier électoral transparent, fiable, avant le reste du processus électoral.
Oui, je pense que c'est une bonne chose que les acteurs politiques se retrouvent de temps en temps. Comme ils ont commencé les discussions hier, nous allons attendre voir si cette préoccupation va retenir l'attention des participants. Parce que cette chanson-là, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est juste après la fermeture des bureaux de recensement, en tout cas ici à Lomé, en tout cas dans la zone 1, que les populations elles-mêmes, ceux qui n'ont pas pu se faire recenser, criaient, demandaient à ce que prolonge le timing du recensement, parce qu'ils sollicitaient à se faire inscrire sur les listes électorales avant même que les partis politiques ne rentrent dans la danse et demander la reprise du recensement dans la zone 1. Même bien avant ça, nous avons appris quand on a fermé quand on a fini les travaux dans la zone 1, nous avons appris même que les opérations vont continuer dans les autres zones et après il y aura un temps de ratissage. Moi j'ai appris ça, je ne sais pas si c'était des rumeurs ou comment, qu'après il y aura ratissage. Bon, si aujourd'hui, tu sais ça, on a fait ce débat ici, ça fait deux ou trois semaines nous avons parlé de cela. Ouais. Parce que le problème qui se posait dans la zone 1, tout le monde a pu retenir quelque chose. Les gens, depuis le premier jour, il y avait affluence. Et parfois, on dit, les fiches sont finies et les populations attendent. Tout ça là, et on connaît à peu près la zone 1 là, le dernier recensement, on sait combien, on connaît le nombre de la population. Et quand on veut faire le recensement, on sait combien de temps il faut donner.
Près de 3 millions d'habitants.
Près de 3 millions. Donc, c'est aujourd'hui, je pense que la question est tellement politique que je l'avais dit ici, parce que sinon, j'ai posé la question, est-ce que la CENI recense ce qu'elle veut, ou bien la CENI recense ce qu'elle doit, ou bien la CENI recense ce qui a envie de voter, ou ce qui a l'âge de voter. C'est la question. Si on répond à cette question, c'est fini. Oui. Voilà. Sinon, bon, le reste du débat, on revient chaque fois. Non. Ils sont là-bas. Nous ne parlons pas à leur place. Oui. Et c'est à eux de dire ce qu'ils veulent faire. Parce que sinon, là, bon, on nous fait parler, dire la même chose tout le temps.
Merci, parce que Magloire, si nous y insistons, c'est que le fichier électoral, c'est la base même d'un scrutin apaisé. L'actualité en RDC, en RD Congo, où leur CENI a fini le recensement. Mais tous les jours, le débat, débat s'anime. La CENI même de la RDC qui reçoit les acteurs qui viennent réitérer leurs exigences. Alors, le Togo, nous pouvons faire l'économie de ce débat en aplanissant les difficultés dès à présent, n'est-ce pas?
Non, évidemment. Vous savez, on parle aujourd'hui de recensement électoral, mais je crois quand même que au-delà même du processus électoral, faire bien ce recensement électoral servira même à l'État togolais, parce que vous n'avez pas sans savoir que depuis quelques temps déjà, le gouvernement a enclenché le recensement biométrique. Et je crois que forcément, d'une manière ou d'une autre, ce recensement contribuera également à décompter les Togolais pour permettre, n'est-ce pas, à l'exécutif d'utiliser ces données à d'autres fins. Maintenant, pour ce qui est justement du débat en cours, effectivement, Michel l'a dit, on a vraiment fait ce débat. Et nous, personnellement, vous savez, on l'a toujours dit, au temps même de la CENAP jusqu'au CPC, qu'il était toujours bon que les Togolais puissent se retrouver quand bon leur semble pour discuter de l'avenir du pays. Et nous l'avions dit que l'obligation était donc faite aux membres de la CENAP à l'époque et au gouvernement de faire tout pour faire comprendre à ceux qui n'avaient pas rejoint la barre qu'ils avaient tort, en prenant des décisions idoines qui puissent être partagées par tous. Aujourd'hui, nous en sommes au CPC et on nous informe naturellement que d'après les travaux qui ont eu lieu hier, l'idée était partagée par tous, que le processus était tellement, on ne va pas dire bâclé, mais il restait beaucoup à faire dans la zone 1 pour permettre à tous les Togolais qui ont l'âge, n'est-ce pas, de se faire inscrire, de le faire. Alors, on nous informe qu'aujourd'hui, probablement, ils vont revenir sur le même débat et si tout va bien, on pourra avoir un consensus là-dessus. Moi, honnêtement, je voudrais les encourager dans ce sens parce que, vous savez, on parle aujourd'hui du retour du CAR. Hier, le CAR a abandonné là-bas parce qu'il estimait que ce qui se faisait là-bas ne répondait pas aux aspirations du parti. Aujourd'hui, le CAR est de retour. Il faut prouver au CAR qu'il avait vraiment raison de revenir. Il avait vraiment
eu l'occasion également d'inviter
les exactement la DMK, la DMP, tout ça, parce que quoi qu'on dise, c'est des Togolais, c'est des acteurs majeurs de l'écosystème politique togolais. Et donc, aujourd'hui, ils ne sont pas avec eux, mais il faut qu'ils prennent des décisions idoines, partagées par tous, salutaires, pour leur faire comprendre que, évidemment, vous avez vraiment tort de ne pas nous rejoindre. Et donc, moi, je ne perds pas espoir. Je présume que d'ici le soir, on nous dira véritablement que, eh bien, ce qu'il fallait faire, c'est de prolonger, ne serait-ce que peut-être 3-4 jours, pour permettre à ces gens-là de s'enregistrer, parce que Ambroise l'a dit. Nous l'avons dit, ces derniers temps, on condamne le Togo devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Si quelqu'un n'a pas enfreint aux lois de la République, il est clean, entre griffes, on ne peut pas l'empêcher de s'inscrire parce que les machines sont en panne. Les machines qui sont en panne, c'est la faute aux organisateurs du processus électoral et le gouvernement, la CENI. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour les acteurs de saisir. Parce que, merci. Également, oui. Pour finir, depuis quelque temps, vous l'aurez constaté qu'il y a aussi ce pont-là de confiance qui est un peu coupé entre, on va dire, une frange de la population et ceux qui se retrouvent à la CENAP et au CPC. Pour beaucoup de gens, c'est une balade des gens heureux. Et je reviens encore pour le dire que c'est une bonne occasion de faire renaître cette confiance-là, de relier ce pont merci. De confiance et les populations, oui, les acteurs politiques.
Et l'homme, pour terminer, comme disait tantôt Michel, mais la CENI organise les élections pour les Togolais. Et les Togolais veulent avoir leur carte pour aller voter le jour J. Les partis politiques se font l'écho de cette demande. Comment est-ce que la CENI peut demeurer sourde à cette demande légitime des Togolais d'avoir leur carte et d'aller voter?
C'est ce qu'on ne comprend pas en réalité. C'est-à-dire que depuis qu'on a fini même le recensement dans la zone 1, et des voix se sont élevées pour dire que le nombre de jours ne suffisait pas et qu'il y avait encore beaucoup de Togolais qui ne se sont pas fait enrôler. Et la CENI a continué l'opération dans les autres zones. Et on croyait justement qu'à la fin même du recensement, et qu'il y aurait une mesure additive en ce qui concerne les populations de la zone 1. Parce que c'est la plus grande zone. Quand vous prenez la zone 1, c'est 2 887 000 habitants. Vous ne pouvez pas faire recenser... Je ne dis pas que la taille, la population électorale fait 2 800 000. Mais la population électorale est importante dans les 2 800 000 que compte le Grand Lomé. Et donc, il faut faire la part des choses. Les 6 ou 7 jours ne suffisaient plus. Il fallait quand même proroger pour que la plupart des Togolais puissent se faire enregistrer. Et quand vous voyez l'affluence dans les centres de recensement, nous tous, nous sommes ici, moi j'ai pris ma carte d'électeur, des gens ont pris, mais c'était au prix de 1000 sacrifices. C'est-à-dire que vous venez, vous faites un rang fou, très long, vous immobilisez votre journée, vous êtes là à 7h jusqu'à 17h, 16h, 17h, avant de pouvoir avoir...
Les gens y ont même passé 2 voire 3 jours.
Voilà, et puis quand vous allez au boulot, de lundi à samedi, parce qu'il y a des gens qui vont au boulot de lundi à samedi, et que vous n'avez que dimanche. Dimanche, vous êtes à l'église le matin. À midi, vous rentrez, par exemple, ou à 11h. Mais vous n'avez que l'après-midi pour vous reposer. Vous êtes dans un centre de recensement. Et même l'après-midi, là, ne suffit pas pour avoir votre carte d'électeur. Vous l'aurez quand? Et on vous dit que dans la semaine, on clôture. Et donc, il faut que... Ça, c'est le bon sens. C'est-à-dire que c'est vrai que tout ce qu'on est en train de dire, là, ça a un coût. D'accord? On est conscient du fait que ça a un coût. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on veut organiser les élections, c'est que l'État se donne les moyens de les organiser proprement. Proprement, c'est pas que on va supplier quelqu'un, c'est-à-dire on veut faire un truc, qu'on le fasse proprement. La CENI doit se donner les moyens de pouvoir recenser le maximum de la population électorale, de la population en âge de voter. Et donc, si aujourd'hui, au niveau de la CENI, on se dit que oui, bon, on fait la sourde oreille, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'on dit sur la zone 1, la CENI ne semble pas répondre. Je ne sais pas si vous avez constaté. C'est-à-dire, on écoute, c'est vrai qu'on prend bonne note, on prend note plutôt, mais on ne répond jamais. Et ça aussi, ce n'est pas bien. Et donc, si le CPC peut trouver une solution idéale à cela, même si c'est 3 jours, comme Magloire l'a dit, même si c'est un minimum de 3 jours, qu'on dise qu'à partir de tel à tel, que les populations de la zone 1 aillent se faire ressasser.
Aujourd'hui, comme l'homme le disait, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que le recensement, ça a un coût. Même si aujourd'hui, il faut donner 1 ou 2 ou 3 jours, ça a un coût. Mm-hmm. Mais je pense que il revient aux responsables de la CENI, en tout cas à la CENI, de comprendre que nous avons parlé, il y a de cela 2 semaines, dans ce même sujet, nous avons parlé de la paix. Ça là, ça participe à garantir la paix. Parce que c'est vrai que ces dernières années, bon, ça va plus ou moins bien. Parce que chaque élection, les Togolais, on avait, de par le passé, constaté qu'à la fin de chaque élection, il y avait bagarre ici. Maintenant, on ne peut pas commencer la bagarre même à partir du recensement. On n'a même pas commencé les élections, mais la bagarre commence à partir du recensement. Il faut éviter ce genre de choses. Parce que la paix, c'est quand tout le monde, les règles du jeu sont connues de tous, et tout est transparent, ça garantit la paix.
Merci. Ne serait-ce que la mémoire de Claudine Ahiagnon-Ponjo, elle qui a dédié toute sa vie à la paix au sein de Wanep,
elle a
continué à la CVJR, elle était au Hachkrun quand Dieu l'a arrachée à notre affection. Est-ce que, ne serait-ce que pour le respect de sa vie, on ne peut pas faire un fichier électorable fiable et que la suite se déroule très bien? Ambroise?
Oui, Michel a soulevé un des aspects de ce que j'ai voulu dire. C'est justement par rapport à la CENI qui nous donne l'impression qu'elle organise l'élection pour elle-même. C'est-à-dire que l'élection n'est pas organisée pour les Togolais, encore moins pour les partis politiques qui sont censés envoyer leurs délégués pour pouvoir être représentés et jauger de la fiabilité de ces élections. En plus, la CENI ne respecte personne en ne publiant que le chronogramme de ce qui va arriver des élections. On parle de régionales et des législatives. Tout le monde est dedans. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas quelles sont les dates à laquelle on va aller à ces élections. Mm-hmm. Et on a comme l'impression que les membres de la CENI ou son président, eux, ils ne répondent que ils ne sont redevables qu'à un monsieur quelque part. Les Togolais, on est dedans. Donc, moi, je leur recommande au moins ce minimum de respect aux Togolais qui sont censés apporter leur suffrage à des gens qui nous représenteront à l'Assemblée. Et je reste au niveau de l'Assemblée parce que je suis contre les histoires du Sénat. Pour des questions budgétivores, je précise ça.
Merci. Je rappelle juste que la CENI peut proposer la date des élections, notamment l'ouverture, la fin des campagnes électorales. Mais ces propositions devront être actées par le gouvernement qui prend un décret en Conseil des ministres. Mais nous avons besoin de savoir, cette année 2023, là, est-ce que nous aurons les élections législatives et ou régionales, à quelle date, ne serait-ce que pour que nous préparions pour cela. Allons au Sénégal, où la prochaine présidentielle est en 2024, mais au Sénégal, tout le monde connaît la date. Ce sera le 24 février 2024. Et la dernière fois, Macky Sall a dit même le jour où il va transmettre le pouvoir à son successeur. Ce qui se fait au Sénégal, est-ce que nous ne pouvons pas le faire ici au Togo avec un chronogramme clair, détaillé, qui est annoncé à nous tous? Mais l'essentiel de l'attention se porte sur la déclaration que Macky Sall a faite, à savoir qu'il ne se représentera pas à la fin de son quinquennat en cours. Revue de presse avec le confrère L'Intelligent qui titre la page 7 « Un jour historique pour le Sénégal ». Et le journal nous propose l'extrait du discours du président Macky Sall. C'était le 3 juillet 2023. Autre journal, c'est Chronique de la semaine qui écrit lui aussi à la page 7 « Le président Macky Sall sort par la grande porte ». En disant qu'il n'est plus candidat à sa propre succession. The Guardian lui écrit Sénégal, l'entêté tient parole, Macky Sall ne briguera pas de troisième mandat. Autre journal, c'est Flambeau qui écrit à la page 6, Magloire, vous écrivez, Macky Sall sort le grand jeu et montre la voie à suivre. Et dans cette déclaration, vous voyez que c'est la fin du débat, la fin de ce suspense qui aura duré plusieurs mois. Le chef de l'État sénégalais qui boucle son deuxième mandat et qui donne du sens à la raison et au principe démocratique, pas de troisième mandat. Et en cela, vous trouvez à Flambeau que Macky Sall montre la voie à suivre. Trois points de suspension.
Évidemment, Macky Sall pour nous montre la voie. Et parce que vous savez que jusqu'à dimanche dernier, tout le monde était dans l'expectative. On ne sait pas s'il va aller ou pas. Il a maintenu le suspense. Malheureusement, ça a généré une crise politique qui a fait, on va dire officiellement, près d'une vingtaine de morts et des centaines de blessés. On le regrette. Mais ce qui est salutaire aujourd'hui, c'est sa décision prise en début de semaine. Macky Sall qui, n'oublions pas, le samedi, c'est-à-dire 24-48 heures avant sa déclaration, avait reçu près de 500 maires sénégalais et beaucoup de conseillers municipaux qui faisaient le salmalek pour lui faire comprendre qu'il était le plus beau de tous les Sénégalais.
Pas le plus beau, le seul.
Le seul, unique, dirigeant le plus éclairé du Sénégal et que sans lui, c'est le déluge au Sénégal. Il les a écoutés, il a dit merci. Je vous comprends, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et 24-48 heures après, il dit qu'il se retire. Et pour nous, vous avez vu même le sens des mots, le choix des mots dans son discours. Il dit, le Sénégal est plus grand que ma personne et que le Sénégal est un pays rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence. Plus loin, il dit, aujourd'hui, il faut donner la possibilité à tous ceux qui veulent s'essayer à la gestion de la chose politique. Nous pensons que c'est un discours très beau et qu'il donne véritablement du sens au principe démocratique parce que vous savez que le Sénégal a été connu, du moins en Afrique francophone, comme le leader, n'est-ce pas, de la démocratie. Mais depuis un moment, ça balbutiait. Lorsque il y a eu des incompréhensions par rapport à son troisième mandat ou non, beaucoup pensaient que le Sénégal allait regresser sur le terrain de la démocratie. Et bien aujourd'hui, il le prouve véritablement que non. À part lui, il va y avoir d'autres Sénégalais qui vont continuer la ligne. Et nous pensons véritablement que c'est ça la voie qu'il faut suivre. L'Afrique anglophone fait son petit bonhomme de chemin. L'Afrique lusophone aussi. Mais l'Afrique francophone, on ne sait pas quelle mouche nous pique. On sait quand on capte le pouvoir, mais on ne sait plus quand on le relâche.
Merci.
Et pour nous aujourd'hui, oui. Macky Sall vraiment donne l'exemple.
Juste rappeler qu'à ce jour, le Sénégal est le seul pays de l'Afrique francophone à n'avoir pas encore connu de coup d'état militaire. Eh bien, si pour Flambeau, Macky Sall montre la voie à suivre, le confrère correspondant n'est pas de cet avis. Lui voit plutôt de la capitulation de Macky Sall quand il renonce à un éventuel troisième mandat. Alors, Michel, est-ce que par cette déclaration, est-ce que Macky Sall devient le maître de la démocratie ou bien il n'a fait que se plier à ce qui devrait être fait?
Non, loin de là, il n'est pas maître de la démocratie. Que Magloire souffre, moi, je vais prendre le contre-pied de ce qu'il a dit.
Bien sûr,
Macky Sall, aujourd'hui, après tout le jeu qu'il a organisé, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il est rentré dans l'histoire ou qu'il est l'homme le plus gentil du Sénégal. Non. Les morts, ne serait-ce que les morts.
Voilà.
Les dégâts, la Chambre de commerce et d'industrie du Sénégal a sorti, en tout cas, le diagnostic fait, c'est que c'est des milliards de pertes pour le Sénégal. Et quelqu'un fait, organise ça là et après on va dire qu'il montre quelle voie. Moi, je ne suivrai pas cette voie. Ceux qui veulent suivre n'ont qu'à suivre. Aujourd'hui, je pensais, en quelle année il était venu au pouvoir là? C'est 2012.
Voilà.
J'étais derrière lui, contre Watt. Ça, j'admirais la façon dont il a... Mais depuis un certain temps, c'est fini. Et jusqu'aux morts qu'on a restés tout récemment. Aujourd'hui, Macky Sall est sorti par la petite porte, hein. Même c'est une petite fenêtre, il est sorti par une, parce que c'est les Sénégalais. Je le disais ici, si Malgoire se rappelle, que je n'ai pas peur de ce qu'il va arriver au Sénégal, parce que je connais en Afrique francophone deux trois pays comment certains peuples se comportent, et je sais que les Sénégalais allaient régler le problème. C'est les Sénégalais, ajoutés à mon avis à certaines chancelleries, qui ont amené Macky Sall à plier. Il a capitulé carrément parce que il a compris que il devait rentrer dans une situation que lui-même ne pourra pas gérer. Tu l'as dit 48 heures avant son discours, certains dans son propre camp étaient en train de dire qu'il est le seul bon, le seul intelligent à diriger le Sénégal. Vous savez, en 2000, avant que Wade ne vienne au pouvoir, le ministre de l'Intérieur de l'époque, je pense c'est Benoît Ngom, si je ne me trompe pas. Vous savez, tous les ressorts étaient là. Abdou Diouf a perdu. Mais il y avait des irréductibles d'Abdou Diouf qui étaient dehors et qui disaient qu'ils ont gagné, malgré les résultats. Il semble que c'est le ministre de l'Intérieur qui a convaincu, à deux, il a convaincu Abdou Diouf que... Abdoulaye Wade, que, excellence, monsieur le président, nous avons perdu. Quand les gens dansaient, dehors, qu'ils ont gagné. Vous voyez ? Et pour couper court, Diouf a appelé Wade pour lui dire que, ah, mon frère, cette fois-ci, tu m'as eu. Mais quand on dansait chez Wade, mais ceux qui étaient chez Abdou Diouf, il y a quoi ? Donc, c'est comme ça, les irréductibles, là. C'est comme ça, il faut... Donc, aujourd'hui, il y avait encore des résultats jusqu'à... jusqu'au discours du chef de l'État qui disait que non, que juridiquement. Et ce qui me fait encore mal, il a utilisé la mitraillette juridique pour abattre des gens avant que lui-même, c'est comme il dit, je ne mangerai pas, mais vous aussi vous n'allez pas manger.
C'est ça.
C'est lui qui dit qu'il doit être candidat, qui n'est pas. Alpha Saleh Wadla, c'est sur le plan juridique, les avait abattus. À l'époque, ils étaient gênants. Aujourd'hui, il se dit que peut-être que le temps est passé. Et bon, et ils peuvent concourir. Et maintenant, ils trouvent certains à écarter, d'autres à écarter. Quand quelqu'un est comme ça, regardez à l'est ici. Les Béninois savent le jour où ils vont voter pour changer Talon. Il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Personne. Aucun église a été. On a vandalisé rien que ça. C'est comme ça que la démocratie doit marcher. Quand quelqu'un s'entête et on le fait plier, on dit tout simplement merci. Et c'est fini.
En réalité, comme Michel, moi j'ai un avis mitigé, parce que justement quand on analyse les choses une à une, vous avez vu tout le débat qui avait eu, tout l'arsenal juridique dressé contre le maire Khalifa Sall à l'époque, ensuite contre Ousmane Sonko, et ensuite le temps que ça a mis avant que Macky Sall ne se prononce sur sa troisième candidature, et quand vous analysez aussi cette déclaration quand il était à Paris, quand il prenait le bain de foule, quand vous regardez un peu comment il a modifié la constitution pour instaurer cette affaire de signature et de parrainage, voilà, pour pouvoir être candidat. Mais vous comprenez que ce n'est pas quelqu'un qui avait envie de quitter le pouvoir. Il était dans une logique, il fonçait droit dans le mur. Et donc aujourd'hui, je pense que et le peuple, et la réaction du peuple, parce que la réaction que le peuple avait eue quand on avait prononcé la condamnation de Ousmane Sonko, c'était une réaction violente. C'est-à-dire que le Sénégal a arrêté de fonctionner pendant 2 jours. Toutes les banques étaient à l'arrêt. Quand il y a dans un pays, toutes les banques sont à l'arrêt, c'est que le pays s'arrête de fonctionner. Quand les banques sont fermées, on pille les choses. On vous dit que l'économie est à terre. On vous dit que la chambre de commerce a perdu des milliards. Les banques disent qu'elles ont perdu des milliards. Est-ce que quel président peut rester à la tête d'un pays où les banques sont fermées? Vous asphyxiez le peuple, vous asphyxiez l'économie et personne ne peut vous supporter. Parce que si les hommes d'affaires sont là, les opérateurs économiques sont là, même 12 heures de temps, même 2 heures de temps, Vous faites arrêter le pays, le port s'arrête de fonctionner, l'aéroport ne fonctionne plus, les banques ne fonctionnent plus parce qu'il y a une violence, mais vous ne pouvez pas résister. Et donc, je pense que les signaux étaient clairs pour lui, c'était des signaux rouges. Et avec tout ce qu'il a eu à faire au Sénégal, parce qu'il faut reconnaître que Macky a quand même un bilan, quoi qu'on dise, un bilan sur le plan économique et même sur le plan sportif, parce qu'aujourd'hui, grâce à Macky, et le Sénégal aujourd'hui, avec tout ce que le Sénégal fait sur le plan du football, les gens connaissent.
Sous l'ère Macky.
Sous l'ère, voilà. Bon, de toutes les façons, oui, on doit le dire. Sous l'ère Macky, on a vu qu'il y a quand même quelques avancées du Sénégal. Et quand on prend la ville de Diamniadio, qui est en train d'être construite, et donc on ne peut pas faire tout ça et dire qu'on veut faire un troisième mandat. Moi, c'est pas. Il y a des gens qui se considèrent comme, je sais pas, bon, s'il y a la constitution qui est claire, on veut modifier, on veut se représenter, mais ce n'est pas bien. Maintenant, d'un côté,
oui.
Qui viendra? Grosse interrogation. Parce que Ousmane Sonko, moi personnellement, ce n'est pas quelqu'un qui m'emballe. Vous comprenez? Quelqu'un qui vient en procès et où on dit que vous avez, excusez-moi, je n'aime pas l'utiliser souvent, violé une femme. Et vous vous pointez, vous dites au juge ou dites devant la justice que même si vous deviez violer une dame, ce ne serait pas cette guenon. Mais quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, il y a des propos qu'on ne tient jamais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, même si vous devriez violer, ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de parler de viol. Et ensuite, alors que vous reconnaissez avoir être enfermé dans la chambre, dans une chambre à deux avec cette dame, il serait reconnu publiquement. Et qui était dans la chambre avec vous? Et donc ça, oui, mais ça, non, ça c'est les propos. C'est pas encore la justice, ça c'est les propos que j'analyse.
Oui.
Je ne parle pas de droit, je parle des propos. Et quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous aspirez à diriger un État ou des
on
gens.
Va adopter des
postures. Vous avez des postures à adopter. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas traiter votre concitoyenne, votre compatriote de guenon. Non.
Merci. Et ça c'est important. Même chez nous ici, les acteurs politiques devraient surveiller leur comportement, soigner leur discours. Pour ne pas être rattrapé quelques années après. Mais Ambroise,
oui.
On va quand même reconnaître à Macky Sall le mérite de ne pas avoir voulu s'entêter. Auquel cas, le Sénégal serait aujourd'hui à feu et à sang.
Oui, malheureusement, son non-entêtement n'est pas venu ex nihilo. C'est-à-dire qu'il y a eu des feux. Il y a eu des feux aux fesses
oui.
Qui a amené ou obligé le monsieur à se dédire parce qu'il avait des intentions réelles manifestées.
Oui, mais au moins, comme quand quoi, lui, il a écouté ses pressions. Alors que par le passé,
oui.
En Côte d'Ivoire et en Guinée, on est resté sous
oui,
aux pressions et la suite, on la connaît.
Au Togo aussi. Tu oublies ça.
Moi, j'ai commencé, tu continues.
Voilà, puisque c'est ici, les histoires du troisième mandat, quatrième mandat a commencé. Il ne faut pas oublier ça.
C'est des faits, en fait.
C'est des faits qui sont têtus, quoi, maintenant. Maintenant, le débat qui me préoccupe, et l'homme et tous les autres ont dit l'essentiel, qui viendra remplacer Macky Sall? C'est-à-dire que c'est les deux grandes problématiques qui vont se poser. Qui viendra remplacer? Quel sera le sort de Sanko? C'est les deux problématiques qui se posent. Mm-hmm. Maintenant, Macky Sall, en faisant ce discours, n'est pas innocent. D'abord,
non, c'est... Tu sais que le seul innocent, c'est moi.
Oui, il y a une innocent ici. il y a un innocent ici. On le prend dans ce sens innocent avec griffe. Avec griffe. Maintenant, déjà, quand vous suivez les médias occidentaux, surtout les médias français, qui sont en train de chercher déjà le dauphin au sein de la coalition Beno Bok Yaka, vous comprenez qu'il y a déjà eu des deals. Mais sauf que Macky Sall fait toujours une erreur. J'apprécie l'analyse de Michel, qui disait que le monsieur risque même... Il a fait un discours qui ne va pas se présenter, mais il risque de commettre le grave encore demain, parce qu'il va chercher à imposer quelqu'un de son clan au détriment... Du camp de l'opposition.
Mais à ce niveau-là, le peuple sénégalais sera toujours debout.
Justement,
comme quelqu'un l'a dit.
Celui que, tu sais, en politique, il y a des langages qu'on peut tenir. Mais il y a aussi des gens qui font du suffilage et de la broderie. Quand j'ai suivi le monsieur Khalifa Sall, qui a semblé être conciliant avec Macky, c'est-à-dire que, alors qu'il oublie qu'il y a l'autre qui était le président du Conseil économique social, l'ancien Premier ministre, qui aussi fait des jeux. Faisait des yeux dans une interview accordée tout dernièrement. Nous, on suit tout ça. Donc, Macky a le choix. D'abord, il a lancé les os vers l'opposition. C'est-à-dire, allez vous battre, quoi. Karim, Khalifa, Idrissa et Sanko. Maintenant, lui, il va choisir quelqu'un dans son camp pour cogner l'opposition en face et faire passer son plan.
Je crois
et ça ne passera pas.
Magloire,
ça ne passera pas.
Une minute, s'il
vous plaît. Oui, je ne vais pas être long. Okay. Vous savez, le débat, il est passionnant et c'est intéressant.
Un débat intéressant.
Voilà. Vous savez, Michel l'a dit, on n'est pas naïf. Il faut avoir ce courage de le reconnaître. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte africain. Vous imaginez Macky Sall, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les mots, s'il aurait voulu, il va arriver. Mm-hmm. Il y a des cas.
On l'a vu en Guinée.
On l'a vu, nous ne sommes pas naïfs.
Comme Ambroise le dit, on l'a vu chez nous.
Le gars, il a la machine étatique avec lui. Il a l'armée avec lui. On ne le souhaite pas, on ne l'a jamais voulu. Mais on a vu dans d'autres pays de la sous-région. Et le vieux, en tout cas, l'Ivoirien, Ouattara, il a dit... que je me retire. Il a fait un beau discours, joli, tout le monde a applaudi. Après, son dauphin, il est tombé, il est mort, il revient. Qui a dit quoi? Il est là. En Guinée,
L'autre, il avait voulu tenter. Il n'a pas eu de chance.
Il a eu de chance, il est passé. Non, il est passé.
Mais il est passé, mais il n'est pas
voilà. Resté. Voilà, c'est,
voilà.
J'attends pas du sens.
En fait, ça, c'est différent.
Il a tenté, voilà. Mais en réalité, le débat qui est là aujourd'hui, c'est que on va pas jeter l'eau du bain et le bébé qui est Macky Sall comme si il n'a pratiquement rien fait. Et l'homme a si bien pu le dire. Nous, on ne présente pas Macky Sall comme le chantre de la démocratie. Mais reconnaissons que quand même avoir ce courage de se retirer, c'est quand même un pas qualitatif.
Sous pression.
Sous pression, oui, voilà. D'accord. Mais il aurait voulu rester après
mieux réflexion.
Voilà. Il faut cette précision. En réalité, il aurait bien
voulu rester. Oui, mais il faut préciser,
Madoua. Il aurait pu s'entêter.
Les gens vont mourir, malheureusement. Oui. Mais il aurait pu le faire. C'est pourquoi nous disons qu'au moins, il a eu ce courage, cette honnêteté intellectuelle, de se retirer en disant que le Sénégal dépasse ma personne. Nous pensons que c'est des gestes comme ça qu'il faut encourager pour que ça ne se perpétue
mais
plus.
Mais les auditeurs qui nous suivent avec vigilance nous rappellent qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara avait fait une déclaration solennelle, mais il est revenu.
Dédié,
et que chez nous aussi au Togo, en 1999, feu le général Gnassing Béadéma avait donné sa parole d'honneur.
Il est déjà décédé. On parle de
celui qui est là. Mais il est revenu. Donc c'est de veiller à ce que Macky s'en tienne
effectivement
à sa parole.
C'est pourquoi aujourd'hui les Sénégalais doivent être debout et vigilants. Ce n'est pas encore fini. Le fait de faire ce discours, moi, ça me dit.
L'enjeu me met devant.
C'est vrai, l'enjeu est demain. Parce que il peut dire je me retire, mais créer le bordel devant.
Exactement.
Et c'est en cela que les Sénégalais qui sont en tout cas très vigilants et très courageux, à mon avis, vraiment s'y mettre parce que ce monsieur, jusqu'à même son discours, après son discours, jusque-là, moi, je ne suis pas convaincu. Il faut être parce que vous savez, aujourd'hui, vous dites qui va le remplacer. Vous avez vu dans son propre camp, selon les dires, il n'a préparé personne. C'est pourquoi je suis d'accord avec l'homme qui disait que le monsieur était en train de de réunir tous les rudiments, tous les instruments pour passer en force. Mais il a fait, il a essayé, il a vu, il s'est rendu compte que même les gendarmes qu'il envoie dans la rue frapper les gens, les militaires qui sont, tu le dis, qu'il a l'armée, mais Alpha Condé avait l'armée. Tu as vu la suite ce que tu vas, vous avez en 89, si vous rappelez en Roumanie, Nicolas Ceaușescu.
Oui.
Les gens, on a position des chars. Mais les gens, à un moment donné, montaient sur les chars. Parce que justement, pourquoi? Ceux qui tuaient, à un moment donné, ils ont vu le sang tellement que ils ont démissionné.
En Indonésie, avec
Ceaușescu. Et quelqu'un est sorti du char, si vous avez, je ne sais pas, Margot, tu es avec elle, tu as vu l'image, le pilote est sorti du char et il fuyait.
Il fuyait.
Parce qu'il a tué tellement que il n'en pouvait plus. Donc, faisons attention.
Je dis que
Macky Sall, il ne doit pas être... Oui. On doit lui dire tout simplement merci. Parce que le discours qu'il a fait la dernière fois, là, ce discours-là n'avait pas de sens. Il aurait...
Le discours-là peut-être... n'avait pas de sens.
Non, ce n'est pas... À l'heure où nous sommes au Sénégal, ce n'est pas affaire de troisième mandat, il devait parler. Il devait parler comment chercher l'argent pour nourrir les Sénégalais, comment construire les instruments. Parce que ce discours-là n'a pas de sens. Dans ce niveau-là, parce qu'il ne devait même pas. Ça
merci,
ne devait même pas avoir lieu.
Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, reconnaissons quand même le mérite. Après hésitation, il s'est quand même rendu compte de la pression et du bon sens. Il s'est plié et il reconnaît qu'il n'est pas le seul beau au Sénégal, que d'autres acteurs au Sénégal sont susceptibles de mener son pays vers l'émergence. C'est en cela que Michel souffre, mais c'est en cela que je suis un peu d'accord avec l'article de Flambeau. C'est quand même une certaine voix que Macky Sall montre. Maintenant, à qui chacun y répondra.
Tout le monde le sait.
Alors, il nous reste juste 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on évoque un peu cette crise-là qui sévit à l'université, dans les universités publiques du Togo depuis quelques temps. Aujourd'hui, il y a au moins 3 journaux qui en parlent. Commençons par Le Changement qui écrit « Convocation du professeur Adjita devant le conseil de discipline, le professeur Olu qui fustige le manège et désingue les ministres Majesté Iou et Dodji Kokoroko. » Flambeau, qui y consacre un article aussi intitulé crise désamorcée de justesse, le bon sens a prévalu. Magloire, rapidement, il s'agit donc du doyen de la faculté des droits qui devait comparaître devant un conseil de discipline, mais il a introduit un recours en grâce pour rappeler certaines irrégularités dans la procédure, et le président de l'université de Lomé, professeur Kokoroko, a pris acte et est en train de réajuster le tir.
Évidemment, et inutile de ressasser encore tout ce qui s'est passé, mais nous pensons qu'au vu de tout ce qui s'est passé, que le bon sens a prévalu. Parce que, vous savez, le professeur Kokoroko aurait aussi peut-être voulu se mettre sur un ring avec les autres, que l'ambiance qui allait voilà, là-bas ne serait pas du tout jolie. Parce que déjà, à la veille, tout le campus était bouclé, l'entourage, pour, on va dire, le temple du savoir à Togolais le premier. Ce ne sont pas de bonnes images à renvoyer du Togo. Et donc, nous pensons que le simple fait même hein, que le professeur Kokoroko puisse suspendre, du moins provisoirement, cette procédure, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, il faut revenir à la table de discussion, dialoguer, parce que c'est des intellectuels. Hein, vous savez, encore que c'est des juristes. Il faut qu'ils retrouvent le sens du dialogue, discuter, s'entendre. Et ça, c'est pour l'image du pays.
Merci.
Et puis, la leçon qu'il convient de tirer de tout ça, c'est que, vous savez, en voyant tout ce qui se passe à l'université, je me dis qu'aucun corps professionnel n'est exempt de reproche ni de critique. Moi, ça me fait mal quand je vois des journalistes togolais dans des groupes WhatsApp où il y a tout un monde, n'importe qui, on met les réalités, les problèmes de la presse togolaise là-bas, on le décortique comme on veut. Ça, c'est nous vendre à vil prix. Et les gens ne vont pas nous respecter. Depuis quand vous avez vu les avocats se déchirer comme ça? Aujourd'hui, c'est les universitaires. On sait maintenant que chez eux aussi, il peut y avoir des problèmes. C'est dans les camps, il y en a, mais ils ne le diront jamais.
Merci. Et bien, tout est parti d'une pétition coordonnée par le doyen Adjita, de pétition qui parle de dérives, de dysfonctionnement, d'irrégularités. Pétition adressée directement au président de la République. C'est ce qui vaut donc d'enclencher la procédure. Alors, Elom, toi, ton journal s'intéresse au-dessous de la pétition et tu trouves que, selon certaines déclarations, on aurait usé de certaines manœuvres pas du tout saines pour ce qui concerne les supposés signataires de la pétition.
Bon, en fait, il y a une question qu'on peut logiquement se poser. L'université de Lomé compte combien d'enseignants-chercheurs? Point d'interrogation. On a mis la réponse dans l'article. Et quand vous prenez la pétition en question, ce qu'on ne nous dit pas et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne connaît pas le nombre de signataires de la pétition. Quand on fait le ratio du nombre d'enseignants-chercheurs avec le nombre de signataires de la pétition, est-ce que ça suffit juridiquement pour porter un dossier ou une voix? Parce qu'une pétition n'est valable que si elle réunit combien? La majorité absolue de qui constitue justement
50% plus 1.
Plus 1. Maintenant, ça c'est des questions qu'on se pose. Maintenant, avec tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, voilà, ça c'est des professeurs d'université, des agrégés, professeurs agrégés, vous comprenez? Où l'autre dit il y a vice de procédure, l'autre dit bon là on convoque un conseil des disciplines, mais en réalité le fond du problème, comment est-ce que des intellectuels comme Magloire l'a dit peuvent transposer sur le terrain digital des informations ou un quiproquo qui pourrait être régler autour d'une table de discussion et qu'on puisse, en tant qu'intellectuel, s'asseoir pour pouvoir en discuter parce que c'est l'avenir de l'université, des étudiants qui s'y jouent. Et donc, on ne comprend pas pourquoi une personne doit pouvoir... C'est vrai que tout le monde est libre de signer une pétition, de lancer une pétition si elle n'est pas contente. De toutes les façons, ça, c'est le droit. On ne peut pas lui refuser. Maintenant, si ce qui se passe là, on ne nous dit pas beaucoup de choses. Mais si les initiateurs de cette pétition qui ont saisi le président de la République, d'accord, sur des faits qui ne semblent pas être bons pour eux, oui, bon, mais on ne nous dit pas si là-bas, le droit a été respecté ou si la procédure
merci,
a été régulière.
Merci, nous avons déjà débordé du temps des auditeurs. Souffrez qu'on s'arrête ici et qu'on adresse le clin d'œil aux partenaires et que les auditeurs qui commencent à s'impatienter puissent déjà entrer en ligne. Michel. 93.5. Eh bien, c'est parti sur les deux numéros, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, liberté totale. Nous prions juste de vous limiter au sujet que nous avons discuté aujourd'hui.
Déjà un premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour mon patron.
Oui.
Il fait jour.
Patrick.
Oui,
nous ça, écoutons.
Alors, pour ce jeudi où il fait beau là, j'ai deux petites questions. La première, à part les États-Unis, la France, le président de l'Union africaine, Mahamat le Tchadien, est-ce que Macky Sall a encore reçu des félicitations provenant des dirigeants africains, plus précisément de l'Afrique de l'Ouest? Ça, c'est un. De deux, concernant ce qui se passe à l'université, là, est-ce que c'est normal que l'actuel ministre dirige encore la présidence de l'université? Cela n'est pas encore, cela ne constitue pas un problème à ce qui se passe présentement là-bas à l'université. Et pour finir, ce que vous avez évoqué là, c'est très important concernant les deux retenues d'eau là, au niveau du boulevard Yadema là. Mais vous savez, l'autre qui est en venant du GTA, l'autre qui est à droite là, il y avait eu des habitations là-bas. Donc ce qui ce hasard a fait laver le moto et console là, je vous dis que il y avait même un couvent pour ceux qui connaissent bien le milieu là. Donc on sait jamais, nous sommes en Afrique, prenons garde. Ça dit c'est des mauvaises choses à corriger. Merci.
Je vous en prie, Patrick, qui passe le témoin au suivant. Bonjour.
Alors bonjour, Sas.
Oui.
D'abord.
Ça c'est Sizinga Kajao.
Oui, tout à fait.
Il y a un bon petit moment. Diminuez le volume de votre poste récepteur.
Merci beaucoup. D'abord, je voudrais...
Ça continue. Diminuez carrément. Vous allez nous écouter ici.
Jacob Arma. Donc, que ce monde repose en paix, que les uns et les autres puissent m'accompagner à sa dernière demain. Ma première préoccupation, au fait, à l'université.
Les non, là, je suis désolé, le son n'est pas bon, nous n'arrivons pas bien percevoir. Je suis vraiment désolé, Sizing Akadiao. Vous allez revenir peut-être après avoir bien ajusté. Alors, le suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Nyamavo.
Ah, monsieur Nyamavo.
Il y a longtemps, j'ai essayé de vous tenter, mais je n'ai pas pu.
Aujourd'hui, c'est le bon.
Merci. Et je vais commencer par le lavage des motos au niveau des 3K.
Oui.
C'était sous mes yeux. Quelqu'un a pris une moto pour stand-by. Il tentait de laver. Lui et la moto sont retrouvés au fond de la boue, quoi. Donc, c'était les sapeurs-pompiers qui étaient venus. C'est la moto qu'ils ont trouvée d'abord, après le corps et puis la partie.
Voilà.
Et puis, on parle de lavage des motos. Il y a un monsieur qui se lave, qui se donne le luxe de se laver même à open air. Au vu, au sud des gens là-bas, après d'avoir lavé sa moto, il se lave.
Lui, il se lave.
Il se lave. On doit le rappeler que c'est dangereux.
C'est ce que nous essayons de faire.
Et oui. Et par rapport à ce qui concerne Macky Sall, on va le féliciter. Et après avoir longuement réfléchi, trois points de suspension. J'ai l'impression que certains chefs d'État ne réfléchissent pas pour prendre de la hauteur, pour mettre ce qui est logique devant. On met ce qui est la Constitution nous garantit. Et les gens avaient garanti aussi. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. On n'a pas compris que, plutôt, je suis lui-même. Je vais mourir sur le pouvoir. Eh oui, on nous a garanti ça. La grande surprise, en 2015, on nous réserve du suivi, c'est un homme de surprise. Moi, j'attendais qu'on nous dise qu'il ne va plus passer au troisième mandat. Mais il a passé. Et ça passe. C'est vrai. Ferdinand Haïté vous a dédicacé son prix. Aujourd'hui, il a les sérieux. C'est, je vous en prie aux journalistes de rappeler ce qui ne va pas à l'État. C'est un le fond. Mais d'autres essaient de dérouler le tapis rouge, que tout est bon, tout marche bien, c'est l'Eldorado, avec les histoires de, comment l'appelle-t-on, mandat social. Mais le maïs est toujours, les prix continuent pas à augmenter, les routes, les innocents passés par là. Mais on pense que, comme l'a dit Macky Sall, l'intelligence de tout le Togolais se trouve dans une même tête. même la tenance se trouve au sein aussi du parti. Comment ça? Comment ça?
Merci beaucoup, l'ami Nyamavo. C'est très intéressant, mais comme il y a d'autres qui attendent, souffrez qu'on les reçoive aussi. Bonjour, l'ami.
Oui, monsieur Stas, bonjour.
Oui, Sylvain.
Oui. Pour ce qui est de nuisance sonore, là, il ne faut pas que les autorités se limitent seulement à l'homme. À l'intérieur, on souffre.
Où précisément?
Dans les quartiers environnants de Lomé.
Mm-hmm. Alors, vous êtes où, Sylvain Ngwaï?
Ça, vous connaissez chez moi.
Non, je voudrais que vous rappeliez à tous les auditeurs.
Bon, vous avez peur? À Zanguera, à Segbe, à Kato. Mm-hmm. Franchement, c'est déplorable.
Les grosses banlieues.
Il faut qu'on ne se limite pas à Lomé. Pardon.
En fait, nous interpellons tous les maires. Quel que soit l'endroit où nous souffrons de pollution sonore.
C'est nécessaire. En ce temps d'examen, franchement, ça frustre. Ça frustre du ridicule aussi. C'est pas bon du tout. Les enfants n'arrivent plus à apprendre parce que c'est le bruit sonore qui les dérange. Faut que les autorités prennent des mesures encore.
Merci.
Pour le CPC, le tchon-tchon l'a dit, Michel l'a dit. Est-ce qu'on a besoin de CPC? CPI, CPT, pour régler cette histoire du recensement. Il faut qu'on revienne. S'ils ouvrent les portes et les gens ne viennent pas, on va applaudir. Que c'est eux qui ont raison. Mm-hmm. Nous, on a besoin de s'inscrire.
Merci beaucoup. C'est quand même une bonne chose que les gens commencent à s'asseoir pour parler, ce qui n'était pas évident par le passé. Le suivant en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Stas.
Oui.
C'est Commis.
Commis.
Oui.
Ah, notre commis habituel?
Non, l'autre commis.
Ah, vous appelez de quel quartier?
Nyokonakwe.
Nyokonakwe, ok, allez-y, commis de Nyokonakwe.
Oui, pour la nuisance sonore.
Oui.
Bon, au fait, j'habite Segbe.
Mm-hmm.
Il y a un bar chez moi à côté là-bas, je vous assure, vous ne pouvez pas dormir.
Mm-hmm.
Comme chez moi, il n'y a pas de plafond. Les tôles même
tremblent.
Je vous assure.
Même les tôles vibrent et tremblent.
Bon, je tremble. Bon, prêtez-moi le mot. Bon, une, deux, deux. Pour le recensement. Allô?
Oui, oui, allez-y, commis.
Pour le recensement, moi, je trouve que c'est un peu qui arrive dans le recensement. Parce qu'ailleurs,
la communication se dégrade malheureusement. Mais nous pouvons recommander à l'ami Komi, comme à tout le monde, de saisir le maire de son ressort territorial. On verra ce que la commune pourra faire ou ne pourra pas faire. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Yvanes.
Oui. Voulez-vous parler un peu plus fort?
Ok. Mm-hmm. Il y a un fait sur lequel j'avais voulu interpeller dès le début de la période des examens. Mais malheureusement, cette période est déjà passée. Mais j'aimerais quand même lancer cette interpellation à l'endroit des autorités de l'éducation qui prennent sur eux de visiter les enfants dans les salles d'examen au début de, disons, début des épreuves.
Oui.
Moi, je me dis ça, c'est pas nécessaire tout ça là. C'est quelque chose qui, à mon avis, déconcentre plutôt les enfants. Les enfants sont concentrés pour débuter les épreuves. C'est en ce moment que les gens trouvent le temps de venir s'arrêter devant eux pour faire de longs discours. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout nécessaire. Voilà, faut laisser ça quoi. Si on veut
malheureusement, que Yvan, vous avez accusé un retard. L'année prochaine.
Oui, c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même qu'ils écoutent pour les prochaines occasions.
Ok, c'est bien fait.
Parce que. Si on veut s'assurer que les examens se passent bien, c'est pas en circulant dans un ou deux centres d'examen qu'il faut s'assurer de ça. Il y a les agents sur place qui peuvent faire les rapports en direct.
Mm-hmm.
Donc c'est déconcentrant pour les enfants qui sont concentrés sur les épreuves.
Oui.
Voilà, merci beaucoup.
Je vous en prie, l'ami Johannes. Le tout dernier aujourd'hui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui.
Allô?
Oui, c'est monsieur?
C'est M. Prigogine.
Frigo?
Prigogine.
Evgeny?
Evgeny Prigogine. Là, vous n'êtes pas en Biélorussie ou bien à Saint-Pétersbourg? Ok, allons-y. Oui.
Oui. Concernant la musique,
oui.
Vraiment, waouh. Je ne sais pas, je me suis abouquant. Allô?
Oui, la communication se dégrade. Je sais pas, vous appelez sur WhatsApp?
Non, non.
Ok, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
J'allais au Piom. Toti.
Bar au Piom.
Non, pas au Piom même. Au Piom, ils ont réglé son cas. Derrière lui, au niveau de New York TV.
Oui.
Ah, c'est à partir de minuit, le gars, lui, commence.
Il commence à partir de minuit.
Je vous jure, jusqu'à 4h du matin, avec les gens qui chantent, font karaoké,
maintenant. Mais là, c'est la commune Golf 5.
Oui.
Mais le maire Aboka a informé qu'il a acheté des appareils pour mesurer les décibels et ses vies. Vous l'avez saisi?
Et puis, en plus, ils s'en foutent. Ils font des karaokés. Non. C'est extraordinaire. C'est le bas, le bon. Non. Les gens n'ont plus peur.
Merci.
Ok, merci.
Merci. Mais la citoyenneté, le civisme commande également que pour ces choses-là, que nous saisissions formellement le maire. Hein, on peut aller demander une audience et l'en informer, ou bien on lui écrit pour l'histoire. Hein, ça aussi, c'est peut-être un moyen de faire bouger les maires. Oui, Michel.
On ne saisit pas le maire. Le code de la santé est clair. Peut-être les gens n'en connaissent pas. Parce que ce code n'a pas été disséminé auprès de la population. Il y a un article que
c'est dans le code.
Qui dit que vous pouvez porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Voilà. La nuisance sonore.
Oui.
Vous allez vous plaindre. Et vraiment, on vient s'occuper de c'est comme ça. C'est le maire n'en est pour rien. Vous pouvez l'informer, mais vous pouvez porter plainte. Vous avez ce droit de porter plainte. Le code de la santé est clair.
Moi, j'ai une préoccupation.
Oui,
pourquoi, quand il s'agit des lieux de culte, les gens vont déposer des plaintes tout le temps au ministère de l'administration territoriale, et quand il s'agit des bars, il n'y a pas de plainte? Vous trouvez pas ça? Moi, je trouve ça bizarre. Parce que les gens, mais quand vous allez au ministère de l'administration territoriale, ils avaient des plaintes par rapport au lieu de culte, vous ne pouvez pas les compter. Mais quand il s'agit des bars, mais les gens sont là, on vient chercher un journaliste qu'il faut dire que tel fait du bruit. Mais les journalistes, ce ne sont pas des juges. Moi, je suis désolé, je le dis comme ça. Mais quand les gens viennent nous apostropher qu'il y a tel bar qui fait du bruit, voisin, l'autre fait du bruit, mais tout le monde a le droit de porter plainte.
Ce que nous disons,
donc, portons plainte.
C'est encore un postulat. La République se portera très bien si nous nous comportons vraiment en citoyens éveillés et vigilants. Ok, nous faisons rapidement tout le temps, une minute à chacun. Elam, tu as la parole, tu la gardes.
Non, encore une fois, moi je demande à tous les citoyens, je ne sais pas pourquoi le Togolais a peur de porter plainte. Le Togolais a peur. C'est-à-dire, quand quelqu'un te brime, tu es là, tu pleures, alors que toi-même, tu sais que tu as tous les droits de pouvoir rester. Il dit non, que quand je vais aller maintenant, moi je n'ai personne. Bon, lui, il conduit une grosse voiture, il a une grande maison, et il faut que... Non, mais écoutez, la loi est là pour tout le monde. Que personne ne se mette dans la tête qu'une institution... Elle roule pour X ou Y. L'institution est là pour la République. Que soit la justice.
Mais le citoyen vient. Tu as oublié qu'au lieu d'aller porter plainte courageusement, on s'en remet à Dieu. Maoulaoué,
puis aux journalistes. On dit que vous ne faites pas votre travail. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans le quartier? Que telle personne fait ceci. Nous ne sommes pas Dieu.
Merci.
Nous ne sommes pas les juges. La loi est là, la République est là.
Ambroise.
Oui, justement, c'est ça. Je voudrais finir l'émission aujourd'hui.
Non, l'émission continue.
Oui, c'est avec ce sujet-là. J'avais prévu que les 1 minute là, c'est ça. Moi, dans mon quartier, à Kato là-bas, moi, j'en ai appelé le maire, un des maires adjoints, dans le Golf 7 la dernière fois. Il me dit, il faut que le quartier s'organise pour faire. J'ai dit, non, attends. Mais quand vous. Elle m'a dit quelque chose de très important. Il commence à 22h. Tout le monde est déjà au lit. Et c'est à ce moment, le cerveau doit se reposer qu'ils montent leurs décibels. J'invite le maire du Golf 7. Leur agent, passant de Dikounou, d'Agbeibor, de Siakou, et l'autre est Kové, c'est les quatre. Qu'au niveau de l'église catholique d'Akato, il y a un bar là qui est insupportable. juste après, oui, à quatre plages.
Oui, d'accord, le maire, mais Ambroise, et l'homme, t'as déjà indiqué la voie. Tu vas porter une plainte au commissariat.
Moi, je voudrais faire la plainte. À qui de droit d'abord?
Non, c'est au commissariat.
Non.
Bah, au commissariat.
Je dirais au commissariat, mais que.
Michel a cité le code de la santé.
Que les maires là, qui fassent leur travail d'abord. Oui, là, parce que, laisse-moi, sincèrement, c'est à partir de 22h.
Oui, là.
Et s'ils le font jusqu'à 2h du matin, les enfants qui apprennent leur. Rien du tout. C'est pas normal.
Michel t'a indiqué la solution. Moi, maintenant, et les voisins.
Et dans le temps, quand j'irai au commissariat, ce serait pire. Parce qu'ils iront ramasser les baffes de tout avec ça.
Oui, mais.
Oui, ma gloire.
C'est normal. Non,
moi, je vais tout simplement prier, si on peut le dire ainsi, la CENI d'écouter le cri de détresse de la population, ne serait-ce que de la zone 1, en ouvrant quelques jours pour le recensement électoral. Quelques jours supplémentaires, bien entendu.
Pour la paix sociale.
Exactement.
Ok, Michel.
Non, moi,
je. Ton titre, Tchodjo, est connu même des auditeurs. Quelqu'un t'a interpellé aujourd'hui, c'est toi qui clôture.
Moi, je reviens sur le début de la route Legbasito, Bichitové-Covier. Chaque année, c'est le même problème là-bas. Il y a le trou là qui est là. À l'heure où je vous parle, si vous allez là-bas, ça veut dire que ça a duré très pas les chutes bouches. Tu aurais pu constater.
Il y a d'autres voies qui.
Le feu rouge de Legbasito. Le trou là qu'on n'attend pas la veille des élections pour arranger. Cette partie-là, les élus sont là, les maires, les députés, ils sont là pour ça. Voilà. Donc, vraiment, vivement qu'ils écoutent ce que je suis en train de dire par rapport à cette petite portion de la route qui dérange énormément.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Nous terminons par là où nous avons commencé avec la pensée du jour. Quand le sage nous apprend que la seule vraie religion, c'est d'avoir un bon cœur et éviter de faire du mal aux autres. Le Togo serait l'or de l'humanité. Toute la terre serait un paradis, n'est-ce pas? C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain vendredi à 11h, si Dieu le veut, et Dieu le voudra certainement.
Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie pour faire fructifier votre patrimoine tout en bénéficiant du rendement exceptionnel du marché financier, vous propose l'émission Club de la Presse. GTA Assurance Vie, en toute confiance. L'émission Club de la Presse vous a été proposée par Crésus, l'offre multi-support de GTA Assurance Vie. GTA Assurance Vie, en toute confiance.